Merci beaucoup, on vous retrouvera bien sûr à 22h pour d'autres informations. Ce soir, bien, je vous l'avais promis hier, vous l'attendiez, le voici. C'est la suite de notre entretien fleuve avec, vous savez qui. Sonali, la trompette et les paroles du musicien de jazz Laron Thomas, invité par Iggy Pop, et oui c'était lui, à prendre les commandes de son dernier album qui s'appelle Free. Iggy Pop que j'ai eu la grande chance de rencontrer en mai dernier dans la ville où il habite depuis plus de 20 ans maintenant, Miami, en compagnie duquel j'ai passé un peu plus d'une heure, c'est pas fréquent, et comme vous avez pu le constater si vous avez écouté la première partie de cette interview diffusée hier soir sur France Inter, Iggy s'est montré très détendu et même s'est révélé très disert. Oui, c'est comme si c'était la première fois que je le rencontrais, je savais pas trop à quoi m'attendre. Alors oui, si vous nous avez donc écouté hier, eh bien, vous avez sûrement perçu l'entière sincérité de ses réponses et la générosité de sa personnalité. Cette façon qui est la sienne de tout dire, sans filtre, c'est très rare et c'est précieux. Et ça m'a mis à l'aise pour lui poser des questions de plus en plus personnelles, ayant trait à sa vie intime et à ses émotions les plus profondes, en particulier sur son rapport avec les femmes. Vous l'entendrez à la fin de cette émission, il s'est pas mal ouvert sur le sujet et d'une manière inattendue. Alors ces dernières années, Iggy Pop a fait sortir autre chose que la bête qu'il a toujours eue en lui et qu'on connaît bien. C'est pas qu'il ait renoncé à son animalité, mais il a eu envie de s'engager sur d'autres chemins, en particulier la poésie. Dans son nouvel album, il récite un remarquable poème inédit de Lou Reed, We Are The People, il nous en a parlé dans l'épisode précédent. Et puis il dit aussi Do Not Go Gentle Into That Good Night, c'est un poème de Dylan Thomas que beaucoup de lycéens et d'étudiants en lettres ont appris aux États-Unis. Alors j'ai posé la question suivante à Iggy. N'a-t-il pas été tenté, dans sa vie d'artiste, de laisser tomber Iggy, l'animal de scène, personnage dont peut-être il était devenu le prisonnier, et de renoncer donc à ces cérémonies scéniques devenues peut-être répétitives et prévisibles, et de se présenter sans masque, comme un simple poète, un simple diseur. Jim Morrison avait bien été tenté de le faire à la fin des Doors, et puis Lou Reed aussi en 70, pour d'autres raisons qui étaient liées au manque de succès du Velvet Underground et à son relatif anonymat d'alors. Et donc lui, Iggy, n'a-t-il jamais été tenté de se présenter simplement comme Jim Osterberg, sa véritable identité, poète, ayant renoncé à la vanité du spectacle et vivant tranquillement dans son jardin.
Je le fais ressurgir un peu de temps en temps, l'homme normal. C'était dans les années 90, je crois, ouais. J'ai fait un album qui s'appelait Avenue B. J'ai joué en acoustique à la télévision française. Et j'ai aussi fait la couverture des Inrecuptibles avec des lunettes comme celle-ci et les cheveux courts. Et c'était pas mal. Et puis, parfois, je me remets à mon autre répertoire. Je voyais pas de raison pour laquelle je pourrais pas un peu faire les deux. C'était ce que j'ai pensé. Je pensais que les deux étaient possibles. J'avais pas envie d'être seulement le mec avec son sweater pourri. J'ai reçu une lettre d'une fan, d'une Italienne, qui me dit qu'elle est complètement folle de tristesse parce qu'elle avait une relation avec un prof. Elle avait une relation avec lui. Elle me dit, tu vois le genre de mec, un pull hideux, et il écoute Sigur Rós.
Avec une barbe.
Et puis quand ils sont séparés, et elle me dit, il est tellement salaud, il bloque mes appels. J'ai dû demander à quelqu'un ce que ça voulait dire. Quelqu'un qui m'explique la technologie. Qu'on peut bloquer comme ça les appels de quelqu'un. C'était nouveau pour moi. Mais donc, j'aime bien les deux. Je passe de l'un à l'autre. Je fais un peu des deux parce que j'aime bien les deux. Et que ce personnage physique, il est en moi depuis longtemps, donc il ne va pas disparaître facilement. On va dire ça. I don't care if it's decadent. I don't know where my spirit went, but that's all right. I wanna go to the deep, 'cause there's nowhere I want to be.
But that's all right. Particles of pain in my brain, I guess they're here to stay. They've worked their way inside, and I can't hide.
To Go to the Beach, un des titres les plus mémorables de l'album préliminaire que, en français dans le texte, que Iggy Pop a publié en 2009 et qui en a dérouté plus d'un. Un enregistrement de chansons au style varié, mais enfin, vous l'avez peut-être oublié, ça commençait par une déclamation des feuilles mortes, ah oui, les feuilles mortes de Prévert et Cosma, avec un accompagnement qui pouvait évoquer vaguement, enfin bon, je dis vaguement, l'été indien de Joe Dassin. Joe Dassin, dont Iggy avait d'ailleurs repris Et si tu n'existais pas dans son album suivant, Après, paru en 2012 et presque entièrement consacré à des classiques de la chanson française chantés dans notre langue, on y reviendra d'ailleurs. Alors il y avait un passage frappant dans l'album précédent, donc préliminaire, la récitation par Iggy du passage d'un roman de Michel Houellebecq, La possibilité du Nil, en l'occurrence un poème consacré à la mort du chien du héros, le chien Fox. Il avait d'ailleurs déjà déclaré à mon excellent confrère Stéphane Davet du Monde en 2009 ceci: je me suis retrouvé dans ce personnage d'artiste de musical, Daniel 1, dans le livre, usé par sa carrière, qui pense à se retirer et espère une nouvelle vie, tout en ayant beaucoup de mal à appréhender la réalité. Alors j'ai posé à Iggy une question simple: qu'est-ce qui a suscité en lui ce besoin de réciter ce poème? Qu'est-ce qui a créé cette connexion si étroite entre lui et ce livre, et les livres peut-être, de Michel Houellebecq?
C'est toujours amusant, vous savez, il y a la copine espagnole dans le roman. Celle qui porte une mini-jupe. Et elle veut partir à Hollywood pour faire un film avec Robert De Niro. Elle écoute de la techno jusqu'à 3 heures du matin et elle baise un espèce de gorille. Et moi, j'ai eu une copine colombienne qui était dans ce genre-là. Donc, il y a des détails, il y a beaucoup de détails dans ce roman qui sont hilarants, mais drôles et vrais.
Il y a beaucoup d'autodérision.
Et puis quand il part en Espagne, avec l'amour de sa vie, ils habitent dans un bloc blanc, et puis il y a le petit chien. Et naturellement, à la première occasion, les ouvriers espagnols, ils vont écraser le kleps.
Ils s'en foutent.
Parce que bon, ils ne veulent pas vraiment de nous chez eux, en fait, ça non. Et puis plus tard, il y a dans Plateforme, Il raconte comme c'est super de baiser avec une professionnelle thaïlandaise. Mais bien sûr, ce mec, en turban et en robe de chambre comme ça, il va se faire avoir par le mec avec la mitraillette et avec le flingue. C'est illogique. Mais ça parle de petites vérités. Et puis ça parle... Je
ne
sais plus si c'est dans Possibilité d'une île ou dans Plateforme. Le personnage a un père qui fait de bonnes affaires et qui est arrivé à un moment de sa vie où son business, c'est toute sa vie. Et puis il met en italique quand il veut souligner quelque chose. Il a raison. Parce que ça, c'est pas bien. J'avais beaucoup de problèmes dans ma vie à l'époque. Et là, je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui parle de ces choses-là. Lui. Le déclin de la chair, la persistance du désir, et la cruauté de l'existence. Les trois grands sujets, quoi. Et puis c'est drôle. Et puis c'est méchant. Hein. C'est super. Vers la fin de Possibilité du Nil, il finit par aller vivre dans le vrai monde, dans la forêt. Et dans la forêt, il rencontre la superbe jeune femme en mini-jupe en cuir bleu. Et elle est sexy. Mais il souligne un truc, que puisque dans ce nouveau monde sauvage, il n'y a pas de produits déodorants modernes. Il
n'y
a pas l'hygiène moderne. Il n'y a pas de douche. Et ça pue. C'est très brutal, son écriture, mais c'est logique. Et puis on voit bien que ce type, il a été un geek avant.
Weeks after my arrival, Fox died, just after sunset. I was stretched out on the bed when he approached and tried painfully to jump up. He wagged his tail nervously. Since the beginning, he hadn't touched his bowl once. He had lost a lot of weight. I helped him to settle on my lap. For a few seconds, he looked at me with a curious mixture of exhaustion and apology. Then, calmed, he closed his eyes. 2 minutes later, he gave out his last breath. I buried him inside the residence at the western extremity of the land. Surrounded by the protective fence next to his predecessors. During the night, a rapid transport from the central city dropped off an identical dog. They knew the codes and how to work the barrier. I didn't have to get up to greet them. A small white ginger mongrel came toward me, wagging its tail. I gestured to him. He jumped on the bed and stretched out beside me. Love is simple to define, but it seldom happens in the series of beings. Through these dogs, we pay homage to love and to its possibility. What is a dog but a machine for loving? Introduce him to a human being, giving him the mission to love. And however ugly, perverse, deformed, or stupid this human being might be, the dog loves him.
Qu'est-ce qu'un chien sinon une machine à aimer ? On lui présente un être humain en lui donnant pour mission de l'aimer, et aussi disgracieux, pervers, déformé ou stupide soit-il, le chien l'aime. Non, c'est pas moi qui vous raconte ça, mais c'est le personnage de Daniel 25 dans le livre de Michel Houellebecq, La possibilité du Nil. C'est présenté dans le roman comme une entrée de son journal intime écrite à la mort du chien Fox, remplacé d'ailleurs par un clone. Et Iggy, il nous l'a dit, en a été touché au point de le réciter dans son album préliminaire paru en 2009 sous le titre de A Machine for Loving. Alors j'ai demandé à Iggy pourquoi il avait eu envie de reprendre quelques années plus tard des classiques de la chanson française aussi rebattus comme La Vie en Rose ou La Javanaise pour son enregistrement qui s'appelait Après. Qu'est-ce qui a été au juste à la source de cette envie ?
What happened was I opened the door with preliminary.
J'ai commencé avec Préliminaire, en chantant une chanson en français. Et alors, ils ont cru qu'il allait avoir 14 chansons en français. Et il m'a bombardé avec une très longue liste,
ton collaborateur français,
de bonnes chansons en français. Et j'ai tout écouté, il y en avait une quarantaine, et j'ai appris au mieux. J'ai fait du mieux pour cette émission
de télévision.
Et mes préférés, et la Javanaise aussi. Ça, j'ai envie de chanter ça.
Et
d'exprimer quelque chose avec. Et pour moi, elles sont liées à l'époque du répertoire, du grand répertoire de Sinatra. À l'époque de For Only the Lonely et de The Wee Hours, ces deux albums-là. Et là, je me suis dit que je voyais un lien avec cette sensibilité-là. Et je me suis dit, bon, je ne suis pas Rod Stewart, les Américains ne me laisseront jamais chanter le grand répertoire. Mais je peux faire un mélange entre des chansons françaises, certaines chansons américaines. Et je peux obtenir quelque chose. J'ai eu la chance d'avoir le producteur, comme producteur, un bassiste pour moi, un bassiste qui avait été dans mon groupe. Et il avait épousé une Française. Et il était très familier avec cette culture, cette musique. Et il savait quoi faire, il savait où aller. On a fait tout nous-mêmes. Et à ce jour, c'est vraiment l'album qui est le plus proche de mon cœur. Je l'ai fait sans maison de disque. En se foutant complètement du succès. Il y a un type. Il y a deux personnes qui m'ont parlé de cet album. Une femme très intelligente qui fait des interviews pour gagner sa vie. Mais bon, elle a vu beaucoup de choses. Elle fait ça depuis très longtemps. Et elle m'a dit, par votre voix, dans l'album, je sais que vous savez. La façon dont elle me l'a dit, c'était, elle me parlait de qu'elle avait vu ma vulnérabilité. Et l'autre type sympa qui m'a parlé, c'était un type à Lyon, qui est venu à un concert. Il m'a amené une bonne bouteille de vin. Et il m'a dit, moi j'ai une boutique super à Lyon, où je vends du vin et du fromage. Et il m'a dit, j'ai après, à côté de la caisse, juste devant les gens, je commande 25 exemplaires, ils se vendent toujours, et quand ils sont vendus, j'en recommande 25. J'ai fait, ouais, ça c'est cool. Fromage, vin, et après.
J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kerouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à
glissait l'aile sous le vent. Vois les châtaignes de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Verona au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au Comoran, émaniver de vin de Parma, en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.
Vertigo Trip sur France Inter.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Stop and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. Backing off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone.
Everybody's Talking, un classique de la fin des années 60, une chanson du New-Yorkais Fred Neil, rendu célèbre par l'excellent Nilsson, c'était en 69. C'était d'ailleurs la chanson d'un film célèbre avec Dustin Hoffman, Midnight Cowboy, en français on avait traduit par Macadam Cowboy. Iggy Pop a très bien repris cette chanson en 2012 pour son album Après, dont il nous a longuement parlé, sur la pochette duquel il apparaissait vêtu d'un grand manteau blanc. Alors comme je me sentais
en confiance avec Iggy, j'ai osé lui poser une question que j'avais préparée mais que j'étais pas sûr d'avoir le cran de lui poser. Je lui ai demandé si, sans la présence de certaines femmes dans sa vie, il serait parvenu à réaliser tout ce qu'il a fait, et il a répondu sans gêne ni hésitation.
Non, impossible. Elles ont été, comme pour beaucoup d'hommes, elles ont été ma plus grande inspiration. Et aussi mon désir le plus grand. Et puis aussi mes plus gros emmerdements. Tu vois, sans compter ce que ça coûte. Et voilà.
Est-ce qu'il y en a une qui a compté plus que les autres, qui a vraiment t'aidé à accoucher de ce que tu as fait?
Genre mentor, tu veux dire? Non, c'était pas ça. Beaucoup d'entre elles.
Non.
J'ai pas eu d'instructrice.
Well, wait, yeah, Nico.
Ou alors Nico.
Yeah, obviously.
Clairement,
see,
oui.
Think of Nico exactly as a woman.
Mais Nico, je la prends pas vraiment pour une femme, parce que c'était comme
super being. Nico, obviously.
Nico, c'était, oui, un être suprême.
Just obviously.
Mais oui, bien sûr.
That's where I've had my first French wine, first oral sex.
Mon premier verre de vin rouge, ma première pipe, c'était elle. Elle me poussait tout le temps. Elle me disait, t'es pas assez empoisonné. Bob Dylan, il est empoisonné, complètement. Couvre-toi le visage
de tes cheveux.
Tu ne mérites pas d'être vu. Écoutez sa voix quand elle chantait, quand elle jouait, et elle avait des couilles de chanter cette musique à sa façon, et je savais que c'était fantastique. Et ce qui était super, c'est que jamais elle ne faisait de compromis. Inconsciemment, c'était une influence. Elle est restée avec nous, avec les Stooges,
dans la maison où vous viviez.
Ouais. Et puis ils se moquaient d'elle tout le temps, mais pas moi. Je la prenais très au sérieux. Et j'ai fait un film avec elle, Evening of Light. Pour moi, Nico, c'était vraiment la petite copine de personne, quoi. Elle était très fière à l'époque. Elle avait fait savoir qu'elle avait un petit garçon dont le père n'avait jamais reconnu l'enfant. Et puis elle était avec un Français, hein, Philippe, le réalisateur.
Philippe Garrel.
À cette époque, l'époque de l'album Desert Shore, un disque incroyable. Et elle a joué Janitor of Lunacy pour moi. Et c'était au Chelsea Hotel en direct. Elle m'a dit, voilà, je voudrais que tu écoutes ça. Et j'étais KO. Incroyable.
De toute façon, ça ressemblait à rien d'autre. Je lui raconte que quand j'avais 15 ans, je l'avais vue à la cathédrale de Reims avec Tangerine Dream et qu'elle avait joué à l'harmonium et que le public n'avait pas vraiment capté ce qu'elle faisait. Elle avait l'air d'une martienne. Et puis, de toute façon, sa musique n'était pas du tout adaptée à l'époque comme elle n'est pas adaptée aujourd'hui. C'était complètement à part.
Je connais son vrai nom parce que j'avais son passeport. Elle était plus âgée que moi. Mais je ne voyais pas toutes les implications de ça. Mais récemment, j'ai fait une émission spéciale pour la BBC. Et j'ai regardé un peu sa bio sur Wikipédia. Il a fallu qu'il quitte Cologne. Et à Berlin, la vie était dure. Elle travaillait au KDV,
grand magasin,
C'était un peu l'équivalent des Galeries Lafayette, si tu veux. Le genre de magasin où tu peux acheter n'importe quoi si t'as du fric.
La voix si unique de Nico dans Janitor of Lunacy, c'était dans l'album Desert Shore en 1970, une chanson dont Iggy vient de nous raconter qu'il avait eu la primeur dans une chambre d'hôtel. D'ailleurs, c'était pas n'importe quel hôtel, c'était le célèbre Chelsea Hotel à New York. Alors, comme lors de notre entretien, Iggy s'était ouvert avec franchise sur l'importance cruciale que Nico a eu dans son initiation, d'ailleurs pas seulement artistique mais aussi sexuelle, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, j'ai pour ainsi dire poussé mon avantage et profité du sens d'une de ces nouvelles chansons qui s'appelle Love's Missing, l'amour est manquant, au sens assez général, pour lui demander si dans sa vie il avait eu à souffrir du manque d'amour.
Si ça m'est arrivé souvent, oh oui. Je souffle toujours le chaud et le froid. Des fois, ça va super bien, et puis, tu sais ce qu'on dit, quand t'es chaud, t'es chaud, quand t'es plus chaud, t'es plus chaud. J'ai vécu les deux choses. Laurent avait de la musique pour ça, il me l'envoyait. J'étais en train de faire le film de zombies pour Jarmusch. On était dans l'état de New York, dans le nord, et on n'était pas dans des logements dont j'étais habitué, et on était dans un espace fonctionnel à l'américaine. Ça prend le feu facilement. Ces draps synthétiques, ces couvertures synthétiques, une lumière horrible. Et puis une salle de bain à se suicider. T'as l'impression que t'as déjà une chaise à roulettes dedans. Bref, c'était catastrophique. Mais il y a des gens dont c'est le quotidien.
screaming.
Love's Missing, un des meilleurs titres du nouvel album de Iggy Pop qui s'appelle Free. Une chanson que j'espère on aura la chance d'entendre lors du concert unique qu'il donnera à la Gaîté Lyrique à Paris. Ce sera le samedi 12 octobre prochain et ce sera transmis en direct sur France Inter à 21h. Alors à la fin de cet album, Iggy récite un poème que on connaît bien aux États-Unis, Do Not Go Gentle Into That Good Night de Dylan Thomas, et qui se termine par la strophe suivante que je vais vous citer. Et toi, mon père, là-bas sur ce triste promontoire, maudis-moi, bénis-moi maintenant de tes larmes de colère, je t'en supplie. N'entre pas apaisé dans cette bonne nuit, rage en rage contre la lumière qui se meurt. Et j'ai demandé à Iggy ce que ces mots très intenses représentaient pour lui. Est-ce que c'est la voix du jeune Iggy qui s'adresse au vieil Iggy, exigeant de lui qu'il ne renonce à rien, ou est-ce que c'est lui-même qui, au crépuscule de sa vie, s'adresse à son propre père ? Et voici la réponse qu'il m'a faite.
Mon problème, c'est que j'ai interprété ce poème pour une œuvre de charité. Et je l'ai enregistré aussi pour les iPhones, pour une œuvre de charité. Et quelqu'un de proche a proposé de mettre de la musique là-dessus. Donc j'ai réenregistré le poème. Et quand je l'interprète, quand je le joue, ça m'arrive encore, c'est moi, aujourd'hui. Le Iggy âgé qui parle. Ce sont mes propres sentiments, sauf la dernière strophe, quand il parle à son père. Et là, ça me traverse, ça me fait du mal, ça me gêne. Je ne peux pas dire cette dernière strophe. Mon père, j'aurais pu mieux m'occuper de lui. Pendant les 7-8 dernières années de sa vie, il n'avait plus de soucis financiers, je lui rendais visite. En tout cas, je ne sais pas, ça a été dur. J'ai fait de mon mieux. Il était d'une génération, je crois, qui a pris tous les coups pour que j'aie une vie intéressante et gâtée. C'est lui qui avait fait la guerre. Il avait dû élever ce petit con.
Mais t'aurais pu aller au Vietnam.
Ouais, moi je voulais pas aller au Vietnam. Et une fois proche de la mort, il m'a pris la main et il m'a dit: t'avais raison de ne pas être allé au Vietnam, et je suis désolé. Ah non, à l'époque, il me disait que je n'avais pas le courage d'aller à la guerre. Et puis il m'a dit: tu as réalisé tes rêves. C'était quelqu'un de bien mieux que moi. Et donc j'ai un problème, je ne peux pas enregistrer ça. Mais c'est un problème très beau. C'est partie de ces poèmes. On vous l'apprend à l'école. Et ça en fait chier tout le monde d'apprendre ça. Mais c'est un grand poème. Tellement précis.
Je t'ai pas familier, je pensais que c'était de toi en fait. Alors tu vois, je n'ai pas cette connaissance. Oui, alors on me presse. Alors j'ai une dernière question. Imagine que voilà, tu quittes ce monde et puis tu rencontres David Bowie quelque part. Qu'est-ce que tu lui dis?
I'm back.
Me revoilà.
Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. The wise men at their end know dark is right. Because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying upright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight and learned.
bless me now with your fierce tears. I pray, do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.
Vertigo Trip sur France Inter.
Waiting for the dawn again. The darkness is like a challenger to all my schemes and orders and forced good nature. To just lay down is to give up. You gotta do something. Something. Because the dark is like a challenger. And he will point out the sore point, the wanting point. In my stage of the game, he'll point out memories, basic, basic memories. The few moments that make life any fucking good. And he'll put those in my face, in the dark. If all else fails, it's good to smile in the dark. Love and sex are gonna occur to you, and neither one will solve the darkness.